Jean-Baptiste, nous dit-on, plongeait les gens dans le Jourdain. C'est-à-dire qu'il plongeait les gens dans l'eau. Mais en fait, de plonger les gens dans l'eau, je crois qu'il n'était pas vraiment un adepte du bain tiède. Plutôt aurait-il été le roi de la douche écossaise. En effet, plus je relis ces textes qui nous parlent de Jean-Baptiste dans l'Évangile de Luc au chapitre 3, plus il m'apparaît que cet individu était très fondamentalement contradictoire, paradoxal, difficile à comprendre. Déjà, on nous dit qu'il vivait dans le désert, et voilà qu'il plongeait dans l'eau. Ça n'est pas très normal. Dans le désert, a priori, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, où tout est sec, et voilà qu'il amenait les gens dans le désert pour les plonger dans l'eau. C'est déjà en soi un paradoxe. Ensuite, on nous dit qu'il annonçait le pardon, et pour ce faire, il plongeait les gens dans l'eau, et ils ressortaient comme s'ils étaient tout propres, tout purifiés, et en même temps, il leur demandait de confesser leurs fautes. Et ça aussi, c'est curieux, parce que alors, finalement, avec Jean-Baptiste, on est dans le pardon ou on est dans la culpabilité? Est-ce qu'on regarde aux fautes pour nous rappeler que nous sommes pécheurs, ou est-ce que nous avons en lui un message de libération, de purification et de pardon? Il semblerait que, d'une certaine façon, sa prédication ait été plutôt libératrice. En effet, il annonçait un pardon, je dirais, plutôt facile. En effet, il suffisait de venir à lui, de reconnaître sa faute, et il suffisait de se faire plonger dans le Jourdain, et on en ressortait. Donc, d'une certaine manière, on était quand même pardonné de ses fautes à bon prix, je dirais. Donc, on pourrait dire que Jean-Baptiste était plutôt quelqu'un qui avait une conception assez libérale de la vie, ne demandant pas aux gens pour se faire pardonner une ascèse particulièrement compliquée ou des sacrifices ou des choses difficiles à faire pour accéder au salut. Et pourtant, lui-même nous est montré comme vivant d'une manière particulièrement ascétique. Il vivait très sobrement, ne mangeait ni ne buvait pratiquement rien, se nourrissant de sauterelles, vivant avec des vêtements très simples dans le désert. Bref, tout cela est quand même très profondément paradoxal. Et si l'on y regarde de plus près d'ailleurs, on peut voir que le baptême en lui-même est un acte paradoxal. En effet, l'eau dans laquelle il plongeait les gens est en soi-même à la fois un signe de mort et un signe de vie. L'eau, c'est le milieu dans lequel on ne peut pas vivre, le milieu dans lequel on se noie. Et l'eau, c'est aussi ce qui donne la vie, qui fait pousser les plantes et qui permet aux voyageurs dans le désert de survivre. Et le baptême par immersion que l'on pratiquait à ce moment-là était quelque chose de très profondément paradoxal. Il signifiait, bien sûr, l'accès à une vie nouvelle, et l'individu qui était baptisé naissait comme cela, comme un homme neuf, comme un être nouveau. Mais pour naître comme un être nouveau, on disait qu'il fallait qu'il soit plongé dans l'eau comme s'il était noyé, comme s'il fallait qu'il passe par la mort pour accéder à la vie. Annoncer la mort pour annoncer la vie, en soi, c'est déjà un paradoxe aussi. Mais en y regardant de plus près, il apparaît, je crois, que finalement, tout le christianisme est une religion paradoxale. La croix même, pour commencer, la croix qui est le symbole du christianisme, la croix est un symbole paradoxal. Comment les chrétiens ont-ils pu faire d'un symbole de mort, d'un symbole de supplice, au contraire un signe d'espérance et de vie? Et Jésus, nous dit-on, il est roi, et pourtant c'était un pauvre gueux, un pauvre hère, qui n'avait ni pouvoir, ni richesse, ni rien du tout, et qui meurt tout seul sur une croix privée de tout sujet et de toute autorité. On nous dit qu'il est puissant, et pourtant il était tout faible. On nous dit qu'il est le Fils de Dieu, et voilà qu'il nous est présenté comme mourant, comme le dernier des hommes. On nous dit qu'il ressuscite, et pourtant quand il ressuscite, personne ne le reconnaît. Ça, c'est assez curieux. Mais je crois que cela n'est pas pour rien. Parce que si la foi chrétienne, si le christianisme, si l'évangile en lui-même est paradoxal, c'est que être dans la foi, c'est être fondamentalement dans un paradoxe. Parce que être dans la foi, c'est sans arrêt être tiraillé entre soi-même et les autres, entre le maintenant et le demain. En effet, Jésus lui-même, par exemple, professe de très nombreux paradoxes dans son enseignement évangélique. Il dit qu'il faut transgresser la loi pour l'accomplir. Ça, c'est difficile à comprendre. Jésus dit qu'il ne faut pas transgresser la loi, plutôt il dit qu'il est là pour l'accomplir, et voilà qu'il est le premier à la transgresser, et il dit que le seul moyen d'accomplir véritablement la loi de Moïse, c'est en fait de la transgresser. Et c'est comme cela qu'il guérira, par exemple, quelqu'un le jour du sabbat, en disant qu'en transgressant ce commandement du sabbat, il accomplit en fait la loi de Dieu, qui est de se préoccuper de son prochain. Le Christ lui-même nous dit qu'il faut faire confiance à Dieu et pourtant se mettre au travail dans ce monde. Et donc le chrétien est lui-même pris dans ce paradoxe, je dirais, de s'engager dans le monde et en même temps de s'en détacher. Il doit à la fois être présent dans le monde et en même temps être étranger à ce monde. Le chrétien à la fois attend la venue du royaume et en même temps, le Christ nous dit que le royaume, il est là, qu'il est présent, qu'il s'est approché et qu'il est dans notre cœur. À la fois, le chrétien est invité à accueillir la venue du Christ comme le Messie, mais en même temps, on nous dit qu'il faut attendre sa venue. À la fois, le Christ nous dit qu'il faut renoncer à la vie et que nous devons vivre, et que c'est même en renonçant à la vie que nous pouvons vivre. Si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera, dit-il. De même, il faut mourir pour vivre. Si le grain ne meurt, nous dit-il dans l'évangile de Jean, il ne peut pas donner la vie. Et encore, il faut être faible pour être fort. Et l'évangile maintient sans arrêt ce type d'image paradoxale, en disant que les premiers seront les derniers, que le plus grand ici-bas sur terre sera le plus petit dans le royaume, et inversement. Où il dit « qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé » ou encore que c'est en étant effectivement faible que l'on peut être fort. Ce que Paul reprendra en disant « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car le Seigneur lui a dit « ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Alors il y a dans tout ce christianisme de très nombreux paradoxes. Aussi n'est-il peut-être pas étonnant que dès le commencement de l'Évangile, avec la prédication de Jean-Baptiste, déjà on soit dans un paradoxe. Le tout, c'est de savoir ce qu'on en fait. Un des premiers paradoxes, je le trouve dans la prédication même de Jean-Baptiste. Très honnêtement, j'ai du mal à saisir la logique de son discours. D'une certaine manière, il annonce le pardon, un pardon assez facile à obtenir, comme je l'ai dit, mais par ailleurs, il vitupère et il a une prédication très radicale. Il dit « la cognée est à la base des arbres et déjà voici le Fils de l'homme qui a son vent à la main et qui ramasse le bon grain pour le mettre dans son grenier et qui coupe la paille pour la jeter au feu ». Voilà une prédication très violente, très brutale et en même temps quelqu'un qui annonce le pardon. Alors comment peut-il se situer entre ces deux extrêmes ? On nous dit qu'il annonce des menaces épouvantables pour le salut des gens, et ensuite le texte se conclut en disant que Jean-Baptiste continuait d'annoncer la bonne nouvelle dans toutes les contrées. Mais quelle bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, si c'est celle du jugement, si c'est celle de la condamnation, est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Et puis voilà que, par ailleurs, les gens ensuite lui demandent « Mais alors, que dois-je faire ?» Et voici que là, il va donner des conseils gentils, et des conseils tout à fait modérés. Il va dire en effet aux soldats, « Eh bien écoutez, contentez-vous de votre solde, ne faites pas trop de violence. » Il va dire aux péagers, c'est-à-dire ceux qui collectaient l'argent pour le service du pays, enfin de l'envahisseur et de la nation romaine, il a dit « Bon ben oh, d'accord, prélevez les impôts, mais ne prenez pas au-delà de tout cela. » Et il dit que celui qui a trop, qu'il donne à celui qui n'a pas assez. Donc là, quand Jean-Baptiste tout à coup donne des conseils moraux, on n'est plus dans l'absolu, on n'est plus dans les commandements inapplicables, on est dans une sorte de petite morale bourgeoise, modérée, facile à appliquer et tout à fait réaliste. On n'est plus là, et on n'est pas encore, pardon, dans la prédication radicale du Christ, quand il dira au jeune homme riche « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Ça au moins, il y a de la radicalité. Mais dans le discours de Jean-Baptiste, il n'y a rien de tout cela, On est plutôt dans, je dirais, dans la modération. Alors, comment comprendre ce paradoxe qui se trouve dans les propos mêmes de Jean-Baptiste? Je crois que, d'une certaine façon, c'est justement ce paradoxe qui est intéressant et qui permet de trouver du sens. Peut-être que ce que le texte veut nous dire, c'est que, en fait, notre vie, elle est prise, justement, entre deux choses. Une chose qui est une exigence infinie de réussir sa vie, un enjeu existentiel fondamental, de dire vous avez une seule existence et il faut la réussir, vous devez pouvoir travailler à votre propre salut. Et en même temps, nous sommes pris par le quotidien et par des petites exigences de notre vie quotidienne qui ne sont pas toujours grandioses. En effet, on ne fait pas son salut tous les jours par des grandes choses, mais peut-être que son salut, on le fait avant tout par des petits actes moraux, des petites choses très simples et qui semblent sans importance, mais qui sont en fait d'une infinie importance. La loi est quelque chose de très important, et ça, le Christ n'a jamais dit le contraire, mais Jean-Baptiste nous montre là que si la loi est fondamentale et qu'il y a dans notre conduite un enjeu essentiel qui concerne la vie ou notre mort spirituelle, néanmoins, ces commandements ne sont pas forcément très compliqués, parce que ces commandements peuvent être très importants, mais peuvent être aussi sur des toutes petites choses. L'importance de l'obéissance n'est pas forcément pour des grandes choses. Et donc, bref, je trouve que ce paradoxe est intéressant, parce qu'il nous montre que nous pouvons faire même les petites choses de la vie comme étant infiniment importantes, et que même les plus petites choses de notre vie peuvent être faites comme si elles déterminaient le sens même de notre existence, comme si tout notre salut en dépendait. Et là, nous retrouvons un message qui a été très fortement proclamé par les premiers réformateurs, en quelque sorte, en disant que finalement, notre exigence religieuse dans notre vie n'est pas nécessairement de faire des très grandes choses. Et nous ne sommes pas tous appelés à donner notre vie sur la croix comme Jésus-Christ ou à devenir des grands saints dans ce monde, mais que le service que nous avons à faire de l'Évangile peut se faire dans le quotidien de notre existence, dans la manière avec laquelle nous faisons notre travail, dans la manière avec laquelle nous agissons avec nos proches, dans notre famille, avec ceux que nous rencontrons. Et c'est dans le quotidien de l'existence que se joue l'exigence éthique. Et ainsi, voyez-vous, nous sommes invités, je crois, par Jean-Baptiste, à travailler pour notre salut, mais tout en sachant que nous n'avons pas à avoir peur, puisque de toute façon, le pardon est donné. Et inversement, nous n'avons pas à avoir peur, puisque le pardon est donné par Dieu, et pourtant nous devons travailler à notre salut comme si chaque acte de notre vie en dépendait et en était la condition. Et du coup, je trouve que sur ce point particulier, le paradoxe est porteur, parce que justement, ces deux extrêmes, ces deux points dans lesquels Jean-Baptiste nous promène d'un côté à l'autre, se répondent l'un l'autre et se donnent du sens. Si Jean-Baptiste n'avait donné que des petits conseils moraux, il serait insipide. Et si Jean-Baptiste n'avait fait que de manier la menace fondamentale de notre propre éternité, nous serions dans l'angoisse profonde de l'autre monde. Mais là, il y a à la fois un enjeu fondamental et une possibilité relativement facile, d'accéder à ce salut, d'une certaine manière, et d'accéder aux exigences de Dieu dans le quotidien de notre existence. Alors voilà tous ces paradoxes qui se trouvent dans l'Évangile, dans la foi et, dès le départ, dans la prédication de Jean-Baptiste. Alors pourquoi, pourrions-nous nous demander, pourquoi tous ces couples contraires? Pourquoi tous ces paradoxes? Eh bien, je crois que cela est parce que la vie elle-même, notre vie, est un permanent paradoxe. Et vivre, c'est être sans arrêt écartelé entre plusieurs pôles, écartelé entre des exigences qui sont contradictoires. Vivre, c'est accepter d'être sans cesse dans le paradoxe et avec néanmoins toujours une ligne de conduite formelle essentielle qui, elle, est intangible et qui est le commandement d'amour. le seul commandement qui ne connaisse pas de paradoxe. Mais pour le reste, la vie est entièrement dialectique. Et la vie est toujours d'être en tension entre des exigences inconciliables, entre le fait de se préserver soi-même et de se donner pour les autres, entre le fait de naître et de mourir, entre le maintenant et le demain. La vie est dialectique, la vie est faite de contraires, et je crois que d'une certaine manière, pour comprendre ce qu'est la vie, il faut la voir comme quelque chose en suspension entre deux pôles, et qu'on ne peut comprendre la vie qu'en touchant les deux bornes de cette existence, qu'en touchant les pôles entre lesquels la vie se tient. Et c'est peut-être là la chance, justement, du pasteur que je suis. C'est que moi, j'ai la chance de voir la vie dans tous ses états. Je vois des gens qui sont heureux et des gens qui sont malheureux. Et je peux, dans la même journée, baptiser un enfant le matin, ensuite faire un service funèbre dramatique à midi, et puis l'après-midi, marier un jeune couple tout heureux de se lancer dans la vie. Et je pense que cela, certainement, donne une conception plus réelle de la vie. Parce que la vie, ce n'est ni la naissance, ni la mort, ni la joie, ni la peine. La vie, c'est quelque chose qui se tient en suspension entre la naissance et la mort. La vie, c'est quelque chose qui se tient en suspension, en tension, entre la culpabilité et le pardon, entre le péché et la grâce. Oui, certainement, l'homme vit entre sa naissance et sa mort. Ni l'un ni l'autre ne définit ce qu'il est. Il est quelque chose d'insaisissable. Et de même, l'homme vit entre la culpabilité et le pardon, entre le péché et la grâce, et sur le fait de se savoir en permanence à la fois pécheur et pardonné. L'homme qui oublierait l'un des deux pôles tombe sur lui-même. Il s'écroule. S'il reste dans le pécheur, alors il reste dans la culpabilité et il n'ose plus rien faire. Et s'il se colle sur le pôle du pardon, alors il tombe dans l'indifférence par rapport à tout ce que l'on pourrait faire. Plus rien n'a d'enjeu et plus rien ne compte. Mais justement, être vivant, spirituellement dans ce monde, c'est être entre le péché et le pardon, entre la culpabilité et la grâce, sans tomber d'un côté ou de l'autre. Et je crois que le sens de tous ces oxymores, de toutes ces contradictions de la vie elle-même, c'est de nous inviter à sortir de ces contradictions-là en découvrant une dimension nouvelle. C'est-à-dire que l'on ne peut sortir de ces contradictions de la vie qu'en découvrant une troisième dimension. Et que ces contradictions donnent naissance, doivent donner naissance, ou nous invitent à trouver quelque chose qui échappe à cette logique infernale des contraires et des contradictoires qui sont insolubles. Il faut pour cela chercher à tout prix une issue dans une autre dimension, une issue qui soit ailleurs, parce que l'issue n'est pas dans ce monde. Et de même, on peut voir que dans la vie matérielle et dans la vie physique, la vie elle-même, la fécondité, la naissance d'un petit être humain, ne peut naître que dans l'union des contraires. Et en effet, c'est le fait est que le seul couple fécond est le couple hétérosexuel, et que le couple hétérosexuel est le plus grand paradoxe, je dirais, de la vie sur Terre. En effet, comment un homme et une femme peuvent-ils vivre ensemble? Ça tient de l'improbable absolu. L'homme et la femme sont de nature très différentes. Ils ont des aspirations différentes, des goûts différents, des orientations différentes, des façons de voir différentes. Et voilà que l'on dit que l'être humain doit vivre en couple de cette manière-là, en essayant en permanence de concilier l'inconciliable. Et que c'est de cette manière-là que va pouvoir naître finalement une vie nouvelle. A priori, ça semble impossible et improbable, mais le mariage est cette espèce de pari de concilier les contraires, de concilier ensemble, je dirais, l'eau et le feu. Et d'ailleurs, justement, l'eau et le feu, nous les avons dans notre texte de Jean-Baptiste. On nous dit que Jean-Baptiste plongeait dans l'eau et il annonce Jésus-Christ qui, nous dit-on, nous plongera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Christ plonge dans le feu et Jean-Baptiste plonge dans l'eau. Et pour vivre, il faut que nous soyons plongés à la fois dans l'eau et dans le feu. Encore deux contraires absolument impossibles, parce que l'un étouffe l'autre, mais justement, la vie, c'est d'accepter d'être ainsi, écartelé entre ces contraires, et de tenir à la fois, en même temps, l'eau et le feu. La sagesse populaire dit, en latin, parce que la sagesse populaire parle souvent latin, in medio stat veritas. Ça veut dire, la vérité se trouve dans la voie moyenne, c'est-à-dire dans ce qui est moyen, dans ce qui est modéré. Or, je crois que c'est faux. La vérité n'est pas dans la modération. La vérité n'est pas dans la moyenne. La vérité, c'est quelque chose qui se tient en tension, comme une étincelle entre deux pôles. La vérité, c'est comme une lumière fugace qui jaillit en électricité entre un pôle plus et un pôle moins. La vérité, c'est quelque chose d'improbable, quelque chose auquel on touche, quelque chose que l'on aperçoit, que l'on croit voir, et au moment où on veut la saisir, elle disparaît. La vérité, comme la beauté, comme la vie, n'est que le fruit de ce paradoxe dans lequel nous sommes en permanence écartelés, comme l'arc-en-ciel naît encore d'un paradoxe d'ailleurs. L'arc-en-ciel, qui est une des plus belles choses qu'il y ait sur Terre, naît de ce paradoxe d'avoir à la fois de la pluie et du beau temps. Normalement, soit il pleut, soit il y a du soleil, mais quand il y a à la fois de la pluie et du soleil, alors il y a un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, qui est une chose si belle, si sublime, si extraordinaire, est justement ce qui naît dans le paradoxe même de l'union de ces deux contraires. Et c'est une réalité fugace et insaisissable que l'on peut voir un instant et qui disparaît, quelque chose qui est là, qui est bien réel, et pourtant on ne peut pas le saisir, parce que dès que l'on veut le saisir pour le garder ou le conserver, aussitôt il s'échappe. C'est une sorte de réalité immatérielle. Et cela, c'est extrêmement vrai. Je crois que c'est finalement un petit peu comme la vie et aussi comme le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est sans arrêt en tension entre le désir et la satisfaction. Et la vie est quelque chose qui est sans arrêt en tension entre la naissance et la mort, et entre moi-même et les autres, entre le déjà-là et le pas encore. Mais je pourrais dire que de même, cette vérité, cette beauté, cette lumière qui apparaît dans l'arc-en-ciel ressemble un petit peu aussi à ce que nous vivons. Parce que, vous savez, on parle souvent, et nous avons comme idéal, je dirais, le couple idéal ou la famille idéale. D'ailleurs, les psychologues appellent cette image de la famille idéale la famille Ricorée. Vous savez, comme dans cette publicité ou pour cette marque-là de produits pour le petit déjeuner, l'ami du petit déjeuner, où l'on voit une famille merveilleusement heureux et unie sous un platane dans un paysage idyllique. Les enfants sont sages, bien élevés et joyeux, et le couple est aimant, et tout cela s'entend merveilleusement. Eh bien, les psychologues disent que la famille Ricorée, en fait, n'existe pas. Ou alors, elle existe, mais d'une façon fugace. La famille Ricorée, c'est quelque chose que l'on voit par instant, qui est une sorte de merveille dont on peut se réjouir et dont on peut se nourrir, comme de la vue d'un arc-en-ciel, mais ce n'est pas quelque chose qui existe d'une façon stable et durable. Parce que la vie, comme le bonheur, comme une famille Ricorée, je dirais, c'est quelque chose qui est sans arrêt à reconstruire. Le couple lui-même est un équilibre fondamentalement instable, qu'il faut sans arrêt reconstruire, qu'il faut sans arrêt maintenir en position entre toutes les forces contraires qui, à la fois, tendent à le détruire et qui, en même temps, les forces contraires qui le construisent et qui lui permettent d'être. Parce que je crois que la stabilité, dans le fond, n'existe pas dans les choses de la vie. La stabilité, c'est la mort. La vie elle-même, elle n'est que cheminement. La vie, elle n'est que qu'avancée. Et sur ce point, je serai plutôt un disciple du philosophe Héraclite, qui disait « L'être lui-même n'existe pas, il n'y a rien de stable ou de fixe qui soit réellement important dans ce monde, mais pantari, c'est-à-dire tout coule et tout passe, et tout n'est finalement que dynamique, passage et cheminement. » Or, pour cheminer, il faut deux choses. Là encore, on est, je dirais, dans le paradoxe, et là encore, on est dans la dialectique. Pour cheminer, il faut une dynamique et il faut un chemin, c'est-à-dire un but et un endroit où l'on veut aller. Pour cheminer, il faut une dynamique. La dynamique, c'est un déséquilibre. Pour cheminer, il faut une quête. Pour cheminer, il faut manquer de quelque chose. Pour cheminer, il faut qu'il y ait quelque chose que l'on ait envie de chercher, quelque chose que l'on désire. Et en même temps, si on veut que ce chemin ne soit pas une errance qui ne mène nulle part, il faut aussi que nous ayons une certitude quelque part, une ligne de conduite, une vérité, peut-être un plan ou une direction, un chemin. Et la vie, elle est comme ça. C'est un cheminement qui est entre le manque et entre la certitude, entre le doute et la certitude, entre le manque et la possession. Le déséquilibre, je crois que malheureusement, il est toujours présent dans l'existence. Et le manque est toujours présent. Parce que notre vie elle-même, notre vie matérielle et notre vie physique, se charge, je crois, de nous blesser. Et se charge de nous mettre dans le manque, dans l'expérience du deuil, dans l'expérience de l'échec, dans l'expérience de tout ce qui nous manque et que nous n'avons pas. En effet, le déséquilibre est quelque chose que nous avons sans arrêt. Vivre, c'est être blessé, vivre, c'est manquer, vivre, c'est être dans le manque de quelque chose. Et justement, c'est là peut-être que la foi intervient comme quelque chose d'essentiel. C'est que pour éviter que ce manque ne devienne une chute, la foi peut apporter la stabilité. La stabilité qui se trouve dans une conviction forte qui peut donner du sens à tout cela. C'est en cela que nous disons que Dieu est un rocher, que Dieu est une forteresse, ou que Paul dit en Romains 8 que tout peut passer et que les dominations, les forces, les puissances, tout cela passera, mais qu'il y a une seule chose qui demeure éternellement, c'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. En effet, il y a dans ce déséquilibre auquel nous soumet en permanence l'existence, cette conviction forte, cette ligne de conduite qui est celle de l'amour. Et ça, c'est l'espérance. C'est la base de tout. La base, c'est l'amour que nous avons en Dieu, l'amour que nous recevons de lui, cet amour intangible que rien ne peut détruire. Et c'est aussi le but, c'est-à-dire le sens même de notre vie et de notre cheminement, c'est-à-dire l'amour que nous devons porter aux autres, l'amour que nous devons arriver à avoir même pour nous-mêmes et l'amour que nous pouvons accepter de donner à Dieu. Et c'est là-dedans aussi que la foi a un rôle important. Parce que Dieu, c'est non seulement la stabilité que nous avons dans notre vie, et Dieu est aussi quelque chose qui permet de compléter le couple, je dirais le couple de la bipolarité de notre existence lorsqu'il manque un pôle. Parce que je parlais de déséquilibre, mais ce déséquilibre, pour être créateur, doit toujours rester bipolaire. Or, il arrive que dans notre existence, un pôle prenne trop d'importance par rapport à un autre. Et à ce moment-là, dans notre vie, nous risquons d'être collés à ce pôle, comme quelqu'un qui toucherait, un pôle électrique et serait électrocuté par lui, ou se collerait sur un des deux côtés. Pour qu'il y ait une lumière qui jaillisse entre deux pôles, il faut que les deux pôles, le plus et le moins, s'équilibrent et qu'ils ne se touchent pas. Et je crois que de cette façon-là, Dieu lui-même peut arriver à faire en sorte que les pôles plus ou moins de notre existence soient complétés par quelque chose qui les entraîne dans une situation dialectique qui devienne positive, c'est-à-dire en donnant à notre vie le pôle qui lui manque. Si en effet notre vie est déjà trop pleine de peine, de difficultés, de deuil, alors Dieu sera consolation, amour, espérance, lumière et vie, et notre vie pourra trouver sa place entre ce deuil terrestre et cette joie que l'on trouve en Dieu. Si notre vie est trop pleine d'activité, alors on dira que Dieu est repos, qu'il est calme, qu'il est tranquillité. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, dit l'Évangile, je vous donnerai du repos. Et de même, si notre vie n'est qu'ennui, parce que nous n'avons rien à faire et que nous ne savons plus quoi faire, alors Dieu sera l'autre pôle, c'est-à-dire l'appel à agir, l'appel à aller vers les autres, l'appel à se réveiller, comme cet appel au paralytique qui était là sur son lit à ne pouvoir rien faire. Et Jésus lui dit « Lève-toi et marche !» Et si notre vie est pleine de trop de joie terrestre, alors l'Évangile sera mis en garde et rappelle que la joie terrestre ne dure pas toujours. En effet, je crois que Dieu est comme cela, à la fois une ancre et une voile. Il est une ancre parce qu'il est ce rocher, cette forteresse, cette force qui fait que dans toutes ces dialectiques, tous ces tiraillements de l'existence, il y a quelque chose d'indéracinable, une conviction, une force, un socle, une fondation en béton armé que rien ne peut déraciner et qui fait que notre vie n'est simplement que soumise à ces contradictions de l'existence, mais d'une façon créative. Et puis, il est aussi une voile parce qu'il nous évite justement de mourir les deux pieds figés dans le béton. Mais il est aussi la voile qui nous met en mouvement et qui nous permet d'avancer et d'être justement comme une lueur qui avance, comme un feu follet qui avance sur un marécage. On dit que Dieu guérit les malades, et je le crois, mais je crois que Dieu également, dans sa dialectique interne, Dieu d'une certaine manière guérit un peu les malades, mais également il rend un peu malade les gens trop bien portants. Alors voilà que Jean le Baptiste, prépare le chemin du Christ comme le laboureur retourne la terre. Il prend ce qui est en haut, il le met en bas, il prend ce qui est en bas, il le met en haut. Jean-Baptiste laboure le terrain, il prépare le terrain pour la prédication de l'Évangile. Il nous rend disponibles à une réalité nouvelle qui sera cet Évangile. Il nous rend capables et prêts d'accueillir le Christ, parce que le Christ, c'est la source de vie, c'est la source de paix, c'est la source de joie, c'est la source d'éternité. Et tout cela parce qu'il nous permet de nous savoir aimer et de savoir aimer à notre tour. Et c'est ainsi, je crois, qu'est la vie, cette chose à la fois la plus fragile du monde et en même temps la plus belle et la plus exceptionnelle, pour peu que l'on comprenne comment elle fonctionne. Et tout l'Évangile n'est qu'une gigantesque machine, je dirais, un gigantesque phénomène qui permet d'entretenir cette lumière de la vie et faire en sorte que cette lumière de notre existence ne s'éteigne jamais et soit une lumière de joie, d'espérance, de paix, de bonheur et de vie éternelle. Amen.